Chapitre 77. Vue d'une altitude de 5000 mètres, la cité de Troie, l'antique Ilium, et le champ de bataille qui s'étendait devant elle n'avaient rien d'impressionnant. « C'est tout ? » s'exclama le centurion en chef Mepahou depuis son poste. « C'est ici que nous avons combattu aux côtés des Grecs et des Troyens, sur cette petite colline et dans ce terrain vague. »
« C'était il y a 7000 ans ?»
dit Manmut depuis la cabine de la Dame Noire dans la soute de la navette.
Et dans un autre univers, ajouta Orphu depuis la soute de la même Dame Noire.
Ce coin n'a rien de mémorable,
commenta Suma 4 depuis le poste de pilotage.
Pouvons-nous repartir?
Encore un tour, s'il vous plaît, demanda Manmut. Et on ne pourrait pas descendre un peu? Survoler la plaine entre la colline et la mer? Voir la plage?
Non,
répondit Suma 4.
Utilisez votre vision télescopique. Je ne tiens ni à voler trop bas, ni à m'approcher de trop près du champ d'interdiction érigé au-dessus de la Méditerranée asséchée.
Je pensais à Orphu, qui ne dispose que d'un radar et d'un imageur thermique. Peut-être aimerait-il avoir un aperçu plus complet.
Ça va très bien comme ça,
gronda la voix de l'intéressé. Maintenant son altitude, la navette décrivit un arc de cercle pour survoler la colline, veillant à rester à un peu plus d'un kilomètre du bassin méditerranéen. Manmut zooma via la caméra principale, coupa les autres entrées de données et contempla l'image avec une étrange sensation de tristesse. Les ruines qui subsistaient de l'antique Ilium s'étiraient le long d'une crête courant vers le rivage de la mer Égée. La côte ici ne dessinait pas une baie, mais un promontoire incurvé où les navires jetaient l'ancre ou s'amarraient à des piquets de bois. C'était là qu'Agamemnon et tous les héros grecs avaient échoué leurs centaines de nefs noires. À l'ouest, la mer Égée, la Méditerranée, la mer Vineuse, s'était jadis étendue à perte de vue, mais aujourd'hui, derrière le voile chatoyant du champ d'interdiction post-humain, qui aurait désactivé en une milliseconde la navette et ses occupants, on ne voyait plus que de la terre, des rochers et même des champs cultivés. Le bassin méditerranéen. Également visibles, les îles qui jadis surgissaient des eaux à cet endroit et qu'Achille avait conquises avant de donner l'assaut à Troie, Imbros, Lemnos et Ténédos, transformés en collines boisées aux contreforts rocheux poussant sur le sable du bassin. Entre la mer Égée asséchée et la crête troyenne, Manmut distinguait 1500 mètres de plaine alluviale. En dépit des broussailles qu'il avait envahies, le petit Moravec reconnaissait aisément la terre qu'il avait foulée en compagnie d'Odysseus, d'Achille, d'Hector et des autres. 5 kilomètres de mer peu profonde, bordée par des marécages et des dépôts alluviaux, une plage bondée, des dunes gorgées de sang par des années de combat, des milliers de tentes multicolores, puis la plaine séparant la plage de la cité, jadis couverte d'arbres, mais dévastée par une décennie de cueillettes et d'abattages. On apercevait de l'eau plus au nord, le détroit des Dardanelles, jadis nommé Hellespont, fermé par de gigantesques mains lumineuses semblables à celles qui se dressaient à l'ouest de la Méditerranée asséchée, entre l'Afrique et Gibraltar. Comme s'ils avaient été occupés aux mêmes observations, Orphu déclara sur leur canal privé
« Les post-humains ont dû aménager sous terre un gigantesque système de drainage. Sinon, toute cette zone aurait été submergée. »
« Oui, »
fit Manmut. Mais ni la physique ni l'ingénierie ne figuraient au premier plan de ses réflexions. Il songeait à Lord Byron, à Alexandre le Grand, à tous les grands hommes venus en pèlerinage à Ilium, à Troie, ce site étrangement sacré.
« Aucune pierre ici qui demeure sans nom. »
Ces mots venaient de surgir dans son esprit. Qui les avait écrits? Lucain? Peut-être. Probablement. Sur la colline, on ne distinguait que quelques cicatrices ouvertes sur des rochers d'un gris blanchi par le soleil, des pierres éparses dont aucune n'avait de nom. Manmut comprit qu'il s'agissait là de ruines de ruines. Certaines de ces cicatrices dataient probablement de 1870, année où un archéologue amateur du nom de Schliemann avait fouillé les lieux en dépit du bon sens. Plus de 4000 ans s'étaient écoulés depuis lors. L'endroit n'avait plus rien d'exceptionnel. Le dernier nom qu'on lui eût attribué était Isarlik. Des rochers, des broussailles, une plaine alluviale, une colline dominant la mer, avec les Dardanelles au nord et à l'ouest la mer Égée. Mais Manmut voyait en esprit les armées s'entrechoquer sur la plaine du Scamandre et celle de la Simoïs. Il voyait se dresser les murailles et les tours altières d'Ilium, là où la crête entamait sa descente vers la mer. Il distinguait une éminence boisée entre la ville et la plage. Les Grecs l'appelaient la colline Batier, mais les prêtres et les prêtresses troyens y voyaient la tombe de l'Amazone Myrine. Et il se rappela le visage de Zeus emplissant le ciel sous la forme d'un champignon atomique. 7000 ans. Alors que la navette achevait son passage, Manmuth localisa l'endroit où les grandes portes scellées avaient arrêté les Grecs vociférants. Il n'avait vu aucun cheval de Troie entrer dans la cité. La grande avenue longeant la place du marché et ses fontaines, puis menant au palais de Priam, qu'il avait vu détruire plus de 10 mois auparavant, et un peu plus au nord-est, le temple d'Athénée. Là où les buissons poussaient entre les rochers, Manmuth l'Européen voyait se dresser les portes dardaniennes si animées, la tour de guet et le puits où jadis Hélène avait
« Il n'y a rien à voir ici !»
déclara Sumacâtre sur le canal général.
« On s'en va !»«
Oui !»
fit Manmuth.
« Oui !»
gronda Orphée sur le même canal. La navette fila au nord, rétractant ses ailes de croisière pour franchir à nouveau le mur du son. Personne n'était là pour entendre le bang supersonique qui résonna sur les rives désertes des Dardanelles.
Tu n'es pas excité ?
Demanda Manmuth à son ami sur leur canal privé.
Nous allons voir Paris dans quelques minutes.
Un Paris dont le cœur est devenu un cratère,
répliqua Orphée.
« Je crois bien que ce fameux trou noir a détruit l'appartement de Proust. »«
Quand même, c'est là qu'il a écrit ses livres, ainsi qu'un dénommé James Joyce, du moins pour un temps, si mes souvenirs sont bons. »
Orphée émit un grondement.
« Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais obsédé par Joyce tout autant que par Proust ?»
insista Manmuth.
« Le sujet ne s'est jamais présenté. »«
Mais pourquoi as-tu choisi de te focaliser sur ces deux-là, Orphée ?»
Pourquoi Shakespeare, Manmuth? Et pourquoi ses sonnets plutôt que son théâtre? Pourquoi la Dame Noire et le jeune homme plutôt que, disons, Hamlet?
Non. Réponds à ma question, s'il te plaît.
Il y eut un silence. Manmuth écouta les moteurs dont le bruit résonnait tout autour de lui, le sifflement de l'oxygène courant dans les ventilateurs et les cordons ombilicaux, le grésillement de la ligne com inutilisée. Puis Orphée déclara
« Tu te rappelles ma petite démonstration à bord de la Mab, selon laquelle les grands artistes humains, les singularités du génie, sont capables d'amener à l'existence de nouvelles réalités, ou du moins de nous permettre de les atteindre via les branes. »
« Comment aurais-je pu l'oublier? On se demandait tous si tu étais sérieux. »
« Je l'étais, n'en doute point, » gronda Orphée. La période de l'histoire humaine qui m'intéresse le plus est celle qui va du 20e au 22e siècle après Jésus-Christ. J'ai décidé il y a longtemps que Proust et Joyce étaient les consciences ayant servi d'accoucheuses à ces siècles.
Si je me rappelle bien mes leçons d'histoire, cela n'a rien de positif comme recommandation,
murmura Manmuth.
Non, je veux dire, oui.
Ils volèrent en silence pendant quelques minutes.
Aimerais-tu entendre un poème que j'ai découvert alors que je n'étais qu'un tout jeune Moravec à peine sorti des casiers de croissance et des treillis de manufacture?
Manmuth tenta d'imaginer un Orphudio nouveau-né. Il renonça.
Oui, dit-il. Je t'écoute.
Il n'avait jamais entendu son ami déclamer de la poésie. Sa voix se faisait franchement mélodieuse.
Mort-né. Le petit Rudy Blum, les joues rouges en sa mère, la lanterne rouge éclairant son œil dormant, et Molly qui cliquetante lui tricote une laine rouge, sentant bouger en elle ses petits petons, les rêves de fœtus qui le grignote le préparent à la couette. 2. Un homme se tapote les lèvres avec un tissu rouge, les yeux braqués sur la mer de nuée, derrière les cheminées de briques, submergé par le soudain souvenir du frisolis de l'aubépine sous le vent, tendant ses menottes vers les frémissants pétales roses, le parfum des jours enfuis dans les replis de ses narines. 3. 11 jours, 11 fois la vie d'un être émergeant du cocon, 11 matins furtifs de chaleur et d'ombre rampant sur le parquet, 11 000 battements de cœur avant la tombée de la nuit et l'envol des canards. 11 à la grande, à la petite aiguille quand elle le blottit contre son sein. 11 jours, ils regardèrent dormir son corps rose dans la laine rouge. 4. Les fragments du roman sont reliés dans son imagination. Mais des feuilles volantes dérivent dans les sombres tunnels de son esprit. Certaines vierges, d'autres noircies de notes de bas de page. Il a enduré les pénibles contractions de son imagination. Mais une fois écrit, les souvenirs ne survivent jamais à la nuit.
Lorsque s'estompèrent les échos de son grondement, Manmut observa quelques instants de silence, durant lesquels il s'interrogea sur la qualité de ce poème. Cela ne lui fut point facile, mais il savait qu'Orphu y attachait énormément d'importance. Sur la fin, la voix du grand Moravec était presque tremblante.
« Qui est l'auteur ? »
demanda-t-il.
« Je n'en sais rien, » répondit Orphu. Une lettrée du XXIe siècle dont le nom a disparu avec le reste de l'ère perdue. J'ai découvert ce poème dans ma jeunesse. Rappelle-toi, avant d'avoir vraiment lu Proust, Joyce et autres écrivains sérieux. Mais grâce à lui, j'ai toujours considéré Joyce et Proust comme les deux facettes d'une même conscience. Une singularité du génie humain et de la perception humaine. Jamais je n'ai changé d'opinion sur ce point.
C'est un peu comme lorsque j'ai découvert les sonnets de Shakespeare,
commença Manmut.
Activez la transmission vidéo en provenance de la reine Mab,
ordonna soudain Suma 4 à l'ensemble des passagers. Manmut s'exécuta. Deux humains copulaient vigoureusement sur un grand lit au drap de soie, entouré de brillantes tentures de laine. Leur énergie, leur enthousiasme stupéfièrent Manmut, qui avait consulté pas mal d'écrits sur la sexualité humaine, mais n'avait jamais pensé à visionner une archive vidéo concernant le sujet.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Orphu sur leur canal privé.
« Je reçois des données télémétriques plutôt affolantes, forte augmentation de la pression artérielle, du taux de dopamine et d'adrénaline, accélération des battements cardiaques. S'agirait-il d'une lutte à mort ?»
Fit Manmut. Les deux partenaires changèrent de position sans se séparer ni même ralentir leur frénétique cadence, et le Moravec distingua le visage de l'homme. Odysseus. La femme n'était autre que celle qui avait accueilli l'Achéen à bord de la cité orbitale et prétendait se nommer Sycorax. Libérée du tissu, ses seins et ses fesses semblaient encore plus plantureux, quoique les seins en question fussent présentement écrasés contre le torse d'Odysseus. Fit Manmut. Suma 4 le sauva.
« Ce n'est pas le plus important. Basculez sur la caméra avant de votre navette. »
Manmut obtempéra. Il savait qu'Orphu se concentrait sur les données qu'il était en mesure de capter, radar, thermique et autres. Ils approchaient de Paris et de son cratère, mais, tout comme sur les images reçues par la reine Mab, le dit cratère disparaissait sous un dôme qui semblait tissé dans de la glace bleue.
« Où est notre ami aux mains multiples ? Où est celui qui a bâti ceci ?»
demanda Suma 4 à la Mab.
« Aucun trou de bras n'est visible depuis notre position, » répondit aussitôt Astikche. « Ni nos capteurs ni les satellites que nous avons semés ne retrouvent sa trace. Pour le moment, cette créature a, semble-t-il, fini de se repaître d'Auschwitz, d'Hiroshima et des autres sites. Peut-être est-elle retournée chez elle à Paris. »
« Exact, »
fit Orphu sur le canal général.
« Consultez les données thermiques. Il y a un gros machin pas beau niché au centre de cette toile d'araignée bleue, juste au-dessous de l'apex de ce dôme. Remarquez tous ces conduits d'évacuation. Le cratère doit lui servir à chauffer son nid. Mais cela ne gêne pas les mesures. L'imagerie thermique permet presque de distinguer des centaines de doigts sous les sections les plus chaudes du cerveau.
« Eh bien, » dit Manmut sur leur canal privé, « on est enfin arrivé à Paris, que Proust appelait la ville !»
Par la suite, il ne comprendrait jamais comment Suma 4 avait fait pour réagir aussi vite. Le fait qu'il soit relié en ligne directe à l'ordinateur de bord n'expliquait pas tout. Les 6 éclairs jaillirent de différents points du gigantesque dôme bleu. Seule l'altitude de la navette et les réflexes de son pilote les sauvèrent. L'appareil changea de régime, effectua un brusque virage sur l'aile, tomba à pic, se mit en vrille, puis se redressa et fonça vers le nord en reprenant de l'altitude, mais les 6 décharges d'un milliard de volts ne le ratèrent que de quelques centaines de mètres. L'onde de choc le secoua à 2 reprises, mais Summa 4 garda le contrôle de la situation. Les ailes de la navette se rétractèrent et elle devint fusée. Elle effectua un nouveau virage, une nouvelle vrille, enclencha son système de furtivité, lâcha un flash aveuglant, lança des contre-mesures électroniques au-dessus du dôme bleu de la cathédrale. Une douzaine de boules de feu montèrent de la cité prise dans les glaces, fonçant vers le ciel à Mach 3 pour se lancer à leur recherche. Manmuth suivit les mesures radar avec un intérêt qui n'avait rien d'abstrait et sut Corfu, qui les captait en accès direct, devait sentir les missiles au plasma qui reniflaient leurs traces. Mais la navette leur échappa. Summa 4 avait déjà calé les moteurs sur Mach 5 et, parvenu à une altitude de 32 000 mètres, montait vers la stratopause. Les météores de feu explosèrent au-dessous d'eux, à des altitudes diverses, les interférences de leurs ondes de choc évoquant des ronds dans une mare.
« Espèce d'enf... »
commença Orfu.
« Silence !»
fit Summa 4. La navette roula sur elle-même, obliqua vers le sud, accrut le rayon de sa sphère d'interférence radar et électronique et monta vers l'espace. Aucune boule de feu ne jaillit de la ville qui s'estompait au nadir. Leur altitude atteignait à présent 600 kilomètres.
« Apparemment, notre ami aux mains multiples est bien armé !»
commenta Manmuth.
« Nous aussi !» rétorqua la voix de Mepahu. « On devrait le traiter au nucléaire, lui réchauffer un peu son nid douillet. 10 millions de degrés devraient faire l'affaire. » « Silence !»
ordonna la voix de Summa 4 depuis le cockpit. Puis ce fut la voix du prime intégrateur Astig Che qui résonna sur le canal général.
« Mes amis, nous avons... Vous avez un problème. »«
C'est rien de le dire. »
gronda Orfu, oubliant que tous pouvaient entendre sa voix.
« Non, » fit le prime intégrateur, « je ne parle pas de l'attaque de l'être aux mains multiples. Je parle d'un problème plus grave. » Nous venons de le localiser au-dessous de votre position actuelle. Nos capteurs n'auraient rien remarqué s'ils n'avaient pas suivi votre trajectoire.
Plus grave ?
Répéta Manmuth.
Beaucoup plus grave, rétorqua le prime intégrateur Astig Che. Et en fait, ce problème n'est pas unique, j'en ai peur. Il y en a 768 en tout.